C'est le moment de s'entretenir avec celui que vous connaissez bien, le docteur François Marquis, qui est interniste, interventionniste et chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour.
Bon matin.
Bon matin. Ça va être une autre très belle journée. Partout d'ailleurs au Québec, on prévoit ici dans la région de Montréal 27 degrés ensoleillés. Vraiment un temps propice au déconfinement. Nous avons déjà traversé la journée d'hier. Est-ce que il serait bon peut-être de reprendre les mises en garde habituelles?
Oui, ben effectivement, déconfinement, mais déconfinement intelligent. Donc, on maintient quand même nos distances, on garde notre masque si on se promène dans les transports en commun ou si on a à croiser des gens. On se lave les mains. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante à se rappeler. Et tranquillement, la vie va reprendre son cours, mais on n'improvise pas, puis on décide pas de sortir de l'isolement plus tôt que ce que les autorités nous demandent de faire.
Est-ce que vous êtes inquiet, Dr Marquis? Je regardais le nombre de nouveaux cas hier. C'est quand même élevé, là. On dépassait les 600, on était à 700 la semaine dernière. Est-ce que ça vous inquiète, ça, de voir que le virus, le coronavirus, se propage encore de façon importante?
Bien, en fait, c'est prévisible et avec le déconfinement, on doit s'attendre et on va voir une augmentation du nombre de cas avec nécessairement une augmentation du nombre de cas sévères là, qui vont arriver aux soins intensifs. Maintenant, ça, tout le monde le sait. Ce qu'on espère tous, c'est qu'avec un déconfinement intelligent, on va réussir à maintenir le nombre d'admissions en dessous des capacités du système. Pour l'instant, les nouvelles sont relativement bonnes de ce côté-là. La nuit passée sur l'île de Montréal, on avait encore beaucoup de places disponibles aux soins intensifs.
Donc, vous, en tant que médecin, vous, en tant qu'interniste, interventionniste dans un grand hôpital, c'est évidemment la donnée la plus importante, être capable de mesurer l'état de notre système de santé et sa capacité de recevoir de nouveaux cas.
Oui, ben en fait, c'est la donnée la plus importante parce que c'est elle qui est un peu garante là, de la qualité du niveau de soins. Moi, tant que j'ai à cette place aux soins intensifs, je sais que tout le monde va avoir sa chance de passer à travers là, en fonction de son état de santé.
Est-ce que vous avez remarqué des changements chez les patients qui se présentent et qui sont porteurs, là, quand on dit porteurs, qui ont été testés positifs? Est-ce qu'on est capable de mesurer 2 mois et demi plus tard s'il y a eu une sorte d'évolution dans les pathologies, dans les symptômes développés par les gens qui sont porteurs de la COVID-19?
En fait, pas tant que ça. C'est vraiment quelque chose qui est assez stable. On n'a pas découvert là, de nouvelles présentations un peu tordues. C'est certain qu'il y a eu des choses un peu plus rares, là. Des gens qui ont eu des atteintes là, cardiaques présumées importantes ou qui ont eu des grosses atteintes musculaires. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais on en a vu quelques-uns. Sinon, c'est un peu tout le temps la même répartition, là. Plus t'es vieux, plus t'es malade, plus ça va frapper fort. Mais à travers ça, il y a tout le temps des jeunes sont en santé avec aucune maladie qui tire la courte passe.
Depuis le début de la pandémie, en fait, depuis que la pandémie nous a frappé, Dr Marquis, j'ai eu l'occasion d'échanger au téléphone avec 3 personnes qui ont eu la COVID-19. Une personne qui a été hospitalisée, une autre personne qui est demeurée à la maison, qui est passée à travers la maladie et qui a fait ensuite sa quarantaine ou sa quatorzaine, puis une autre personne qui a pratiquement pas eu de symptômes. Ça m'a frappé parce que j'avais l'impression de parler à 3 personnes qui avaient eu 3 maladies complètement différentes.
Bien, cela dit, c'est absolument vrai. Là, on a un grand éventail là, de présentations qui vont de « c'est à peine si j'ai quelque chose » à « je suis en train de mourir ». Mais il faut se rappeler que, bon, ça, c'est le propre des coronavirus, mais aussi de beaucoup de maladies respiratoires. L'influenza nous fait la même chose. Et si on regarde d'autres maladies virales, la varicelle, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont 3 boutons, puis il y en a d'autres qui se ramassent aux soins intensifs avec une varicelle. Ça, les gens ne le savent pas, mais oui, la varicelle peut vous amener aux soins intensifs.
Ouais. Mais pour vous, les médecins, quand vous recevez un patient qui a été diagnostiqué de la COVID-19, ça veut dire que vous devez adapter vos soins en fonction de la pathologie du patient.
Oui, et une des choses qu'on a appris à se méfier, qui est assez particulier dans le cas de la COVID-19, c'est les gens qui ont un taux d'oxygène très, très bas dans le sang, avec un grand sourire dans le visage. Et ça, c'est assez particulier, parce que la plupart du temps, quand les gens, leur taux d'oxygène dans le sang baisse, on parle de leur saturation, ils deviennent inconfortables assez vite. Et il y a une espèce de corrélation là, assez directe entre un niveau d'oxygène bas et une détresse respiratoire. Alors que dans la COVID-19, on a des gens qui se présentent à l'urgence avec des taux d'oxygène extrêmement bas, mais ils sont tous souriants. Et ce qui fait qu'ils ont une très petite marge de manœuvre. Et on a donc appris à faire vraiment attention aux gens qui arrivent en souriant, qui n'ont pas de l'air si malade que ça, parce qu'on en a vu quelques-uns là, se détériorer extrêmement rapidement. Alors que nous, dans notre tête, on se disait, OK, bon, ben lui ou elle, ça va bien aller, on a viré le coin, c'est tranquille, puis bang, 2 jours après, ils sont aux soins intensifs.
C'est vraiment fascinant ce que vous dites. Est-ce que vous avez vu beaucoup de patients qui ont eu des problèmes, qui ont développé des caillots sanguins?
On en a quelques-uns. Bon, de là à dire que c'est absolument courant, non. Mais oui, des embolies pulmonaires, on en a vu chez des gens qui avaient la COVID avec pas beaucoup d'autres antécédents ou des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on surveille. En fait, nous autres, on a fait à Maisonneuve, étant donné là, notre amour profond de l'hématologie, on travaille beaucoup là-dessus, essayer de comprendre cette partie-là de la maladie, et on donne des médicaments en prophylaxie contre les caillots à des doses un peu plus grandes souvent qu'on donnerait d'habitude. Et disons qu'on surveille de près là, qu'ils ne font pas de flébite et d'embolie pulmonaire.
Docteur Marquis, je voudrais qu'on se projette un peu en avant. C'est toujours difficile de voir l'évolution de ce coronavirus, de la façon dont il se transmet. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas garanti scientifiquement qu'il y aura une seconde vague ou d'autres vagues. Cependant, tout le monde est d'accord à dire que pour les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, donc pour le gouvernement, il est essentiel de prévenir, de se préparer pour cette seconde vague. Et je vous amène sur un point très précis. Quand on arrivera dans la saison froide et que va se mêler à ce coronavirus, le rhume traditionnel ou l'influenza, est-ce que ce ne sera pas très difficile pour vous, les professionnels de la santé, de faire la distinction entre il a des symptômes de COVID et lui a un symptôme d'influenza ou de rhume traditionnel?
Oui, mais ça, c'est déjà un peu le cas. Ce que les gens ne savent pas, c'est quand la saison de l'influenza revient, on a de l'influenza A, on a de l'influenza B, on a du métapneumovirus, on a du RSV, on a toute une série de virus respiratoires qui se ressemblent absolument tous pour les patients et que nous, on est déjà habitués avec on appelle ça un panel respiratoire, c'est qu'on détecte avec un échantillon 5-6 virus différents. Mais je pense qu'à l'automne, la COVID-19 va se rajouter à la liste des virus qu'on va chercher. Mais sur un point de vue clinique, oui, ça va être extrêmement différent de faire la différence entre les cas légers.
Est-ce qu'il va être recommandé encore, surtout pour les gens plus âgés, de recevoir le vaccin antigrippal?
Oui, parce que ça, c'est deux problèmes complètement différents. Et statistiquement, la grippe reste un grand tueur de personnes âgées. Fait que disons qu'on a un nouvel ami avec lequel il faut vivre qui s'appelle la COVID, mais ça ne veut pas dire que les autres amis vont partir.
Ouais.
Ce qui a été particulier cette année, c'est que quand les gens se sont massivement terrés à la maison en confinement, ça a complètement brisé la fin de la saison de la grippe. La grippe, elle l'avait pas vu venir. Celle-là, on a écrasé la grippe pendant 2 semaines. Et ça a été particulier. Là, on a passé de beaucoup de cas d'influenza à rien du tout en dedans d'une semaine, une semaine et demie.
Alors ça, on pourrait, même si on n'avait pas eu la COVID-19 ou le coronavirus, on vient d'apprendre une leçon. C'est que le confinement, la distanciation, a permis de régler ou d'atténuer rapidement un autre problème.
Ah, ça a été extraordinaire, là. On n'a jamais vu une saison de grippe se faire casser comme ça. En tout cas, moi, de mémoire de docteur, j'ai jamais vu ça. Et je pense pas qu'il y a personne qui a jamais vu une saison de grippe finir aussi abruptement là depuis longtemps.
Docteur Marquis, en terminant, on annonce de très grosses chaleurs la semaine prochaine, c'est-à-dire surtout mardi, mercredi, jeudi. On parle de températures qui vont dépasser les 32, 33 degrés à Montréal, donc avec un facteur humidex qui va amplifier, si on veut, cette chaleur. Virus ou sans virus, coronavirus ou non, c'est toujours un problème qu'une poussée de chaleur à Montréal, notamment pour les résidences pour aînés et les hôpitaux. Est-ce que vous allez être plus vigilant la semaine prochaine?
Oui, ben en fait, ça va être le début de la saison des coups de chaleur. C'est qu'effectivement, il va falloir faire attention. Les gens qui sont déjà fragiles au point de vue respiratoire se font toujours un peu attraper par ça, mais il va y avoir tous les cas de déshydratation. Peut-être le seul avantage qu'on va avoir là, c'est que pour une fois, il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille dans les CHSLD. Ça va peut-être amener à détecter ces patients-là, parce qu'il faut pas oublier que les patients âgés, plusieurs perdent le réflexe de soif. Ils n'ont pas soif comme vous et moi, et ils vont tout doucement se laisser sécher dans un coin. Et en ayant plus de gens dans les CHSLD, avec un peu de chance, ça va être évitable. Mais c'est vrai que dans un étal comme Maisonneuve-Rosemont, les étages les plus élevés, faut faire très, très, très attention. Les températures deviennent rapidement très inconfortables.
Docteur Marquis, c'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir parlé en ce dimanche matin. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Au revoir. Le docteur François Marquis est interniste, intensiviste et chef des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.